Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 25 janvier, bonne journée, bienvenue au 98,5 avec un ciel qui est couvert ce matin, assez nuageux, autour de moins 16 degrés, ça va se réchauffer, le maximum pour la journée va tourner autour de moins 10 degrés, puis on aura possiblement aussi quelques flocons de neige. Pour ce qui est de la soirée de la nuit, ciel partiellement nuageux, assez froid, la nuit prochaine moins 23, et demain mercredi, c'est une belle journée, c'est du soleil autour de moins 18, pour la nuit moins 22. Et finalement, jeudi, les températures baissent. Augmentent à moins 9 degrés avec une alternance de soleil et de nuages. Pas mal de choses ce matin. D'abord, le fameux point de presse est prévu à 14 heures cet après-midi. Et tout indique, parce qu'il y a toujours des fuites, que le premier ministre, M. Legault, va annoncer un certain nombre d'assouplissements aux mesures sanitaires. Est-ce que ce sera pour le 31 janvier, donc dans une semaine? Est-ce qu'il va se donner un délai de 2 semaines? C'est à voir. Il est acquis que les restaurants vont pouvoir rouvrir, mais par exemple, 50% de la capacité et à la table, 2 bulles au maximum. Donc, vous ne pourriez pas être 3 couples en train de partager un repas dans un restaurant. Pour ce qui est des gyms, pour ce qui est des bars, il n'y a pas d'indication, en tout cas pour le moment. Mais c'est sûr que on voit très bien l'agenda du gouvernement depuis hier là, qui se dessine. Devant la pression, c'est sûr qu'on est en train d'assouplir les règles. Puis on le voit, le niveau d'impatience des Québécois est à la hausse et aussi l'adhésion à ces mesures, je dirais, commence à perdre des joueurs. Puis des joueurs là, qui étaient, je dirais, des citoyens disciplinés depuis le début, qui respectaient toutes les étapes. Et je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais je pense qu'ils l'ont mesuré. Puis on l'a vu aussi dans les sondages. Le couvre-feu, ça n'a pas passé. Et là, on regarde la situation, puis c'est toujours pareil. La cohérence et ce qui est prévisible. Donc, premier volet, assouplir. Le deuxième a été présenté hier, c'est-à-dire tendre la main aux non-vaccinés. Et c'est le ministre Lionel Carman qui sera avec nous, qui prévoit qu'on va installer des espèces de cliniques éphémères de vaccination. Ça va commencer jeudi au centre, sur la rue Sainte-Catherine. Et on va se déplacer dans les arrondissements, dans les quartiers où le taux de vaccination est peu élevé. C'est une approche, évidemment, qui est très bien. Moi, j'ai 2 questions, parce que avant de déployer des cliniques comme ça, là, c'est pas parce que tu installes une clinique sur l'avenue du Parc que les gens du Mile End qui parlent 18 langues différentes vont se précipiter pour être vaccinés. Et durant les derniers mois, on a déployé dans des quartiers des brigades, notamment avec la Croix-Rouge puis des organismes communautaires. Et ce que j'entends, c'est que ces brigades ne sont plus mobilisées, que la responsabilité maintenant se retrouve entre les mains des CIUS. Et là, on est dans la patente bureaucratique. Et je vous le dis, là, c'est très bien de déployer des centres de vaccination, des cliniques mobiles comme ça, mais il faut faire du rabattage. Il faut aller voir dans les secteurs où peu de gens sont vaccinés. Ce ne sont pas des anti-vax nécessairement, c'est des gens qui font face à la barrière linguistique, culturelle, donner toutes les raisons. Ça prend des gens, des leaders de la communauté pour les approcher et les amener à se faire vacciner, c'est pas parce que tu installes une clinique que les gens vont se précipiter. Alors, est-ce que le plan du ministre Carman prévoit cette opération de porte-à-porte? Ça, c'est l'élément numéro 1. Puis l'élément numéro 2, pour réussir le porte-à-porte, il faut avoir de la donnée. Il faut savoir où se trouvent les non-vaccinés pour que les brigades décident d'aller frapper aux bonnes portes pour que ça soit efficace. Puis on va se le dire, là, il y a 4 fondations privées à Montréal, ça s'est fait tout discrètement, qui ont financé ces opérations dans les derniers mois. Et là, en principe, c'est dans la cour des CIS et des CIUS. Comprendrez qu'on peut douter de l'efficacité de ces mesures. Ça n'a pas fait de bruit, mais ça a été extrêmement utile dans les derniers mois pour justement identifier les secteurs. Mais il faut que l'information circule si on veut que ça fonctionne. Alors voilà pour les cliniques éphémères. Le troisième volet de la stratégie du gouvernement, on l'a vu un peu hier, c'est de dire que tout va bien dans les écoles. D'abord, j'invite à la prudence parce que ça fait une semaine que la rentrée s'effectue. Le lundi, il y a une tempête de neige. Il faut voir un peu quels sont les contacts. Je voyais ce matin qu'il y a des centaines d'élèves qui sont en confinement en Abitibi, que c'est vrai qu'en termes de pourcentage de fermeture de classe, ça demeure limité. Puis on le souhaite, là, il y a personne qui... Mais est-ce que dans quelques jours, on va se retrouver avec beaucoup d'enfants qui seront à la maison, en quarantaine, puis ça implique les parents, puis ça affecte aussi l'économie parce que les parents ne peuvent pas aller travailler. Puis on le sait que la comptabilité des cas dans les écoles a été modifiée. On va vraiment avoir le portrait réel de la situation. On le souhaite, on le souhaite. J'aimerais souligner quand même deux éléments ce matin quand on parle des écoles. J'ai reçu un courriel. Deux enseignants, l'homme et la femme, ont contracté la COVID, même si pendant deux ans de vigilance, en respectant les règles, ils ont pu éviter la maladie. Alors, comme nous enseignons tous les deux au secondaire, cette semaine, 400 élèves n'auront pas de cours d'univers social parce qu'ils sont testés positifs. Alors, lui, il ne comprend pas pourquoi les écoles ont été rouvertes en janvier. On aurait dû attendre au mois de février. C'est toujours le même débat. Mais là, vous avez un cas très précis de deux enseignants, 400 élèves. L'autre cas, c'est dans la presse de ce matin. Et quand on parle de la rigidité du système, on en a un très bon exemple. Le prof s'appelle André Langevin. Puis comme n'importe quel prof, il a le droit de planifier un congé sabbatique. Et pour ce faire, ben sur sa paye, il y a un montant qui était prélevé pour être capable, donc, que pendant ce congé-là, il soit quand même payé. C'est un choix qu'il fait, c'est prévu, c'est permis. Alors, voyant ce qui se passe dans les écoles avec la pandémie, le manque de personnel, c'est un prof de quatrième année, il a décidé de déplacer son congé en disant « je le prendrai plus tard parce qu'on a besoin de moi maintenant ». Et réponse du merveilleux Centre de services scolaires de Montréal que vous devez prendre votre congé, c'est impossible de le reporter à plus tard, ce qui fait que vous devez quitter votre classe le 26 janvier. On manque de profs. Et lui, il est volontaire pour dire « je vais repousser ça à plus tard ». La patente bureaucratique a dit non. Ça a l'air qu'on peut pas, c'est trop compliqué. Puis... Alors, quand on parle du système de santé puis du système d'éducation, de la lourdeur, de la bureaucratie pesante, l'incapacité d'être agile, pour reprendre un peu le cliché, ben, vous en avez un exemple quand même assez concret ce matin pour ce qui est du Centre de services scolaires de Montréal. Maintenant, le dossier de la vaccination des camionneurs, on sait que la manif s'organise. Il y a beaucoup, beaucoup de dirigeants d'entreprises qui tapent du pied. J'en ai parlé souvent là depuis les derniers jours, c'est-à-dire le fait d'imposer la vaccination aux camionneurs qui traversent la frontière, donc ceux qui viennent des États-Unis puis ceux qui s'en vont aux États-Unis, ben, c'est conjugué à d'autres facteurs, fait en sorte que la chaîne d'approvisionnement est durement touchée. M. Trudeau a répété hier que c'était nécessaire, mais que la COVID représente un risque pour l'économie canadienne. Donc, il n'y a pas d'exemption prévue. Et même si on a cru à un moment donné qu'il y aurait peut-être une forme d'ouverture, c'est clair que le gouvernement maintient le cap et que les camionneurs doivent être vaccinés pour traverser la frontière, que ce soit des Américains qui viennent d'ici ou des Canadiens qui vont aux États-Unis, qui reviennent avec de la marchandise. Tantôt, on parlait justement de cette mère complotiste. C'est assez hallucinant ce qu'elle a véhiculé comme discours auprès de sa fille. Je ne reprendrai pas ce que Bénédicte nous a dit. Mais on parle ici quand même d'un couple. Il y a un père puis il y a une mère. Puis la mère pense qu'on est en train d'injecter des puces, que l'ADN va être altéré. Elle a lu ça quelque part, puis évidemment, ça fait boule de neige. Puis mettez-vous à la place du père, qui, lui, croit que la vaccination peut aider. Ce qui nous amène, d'ailleurs, à vous parler de ce sujet extrêmement controversé. C'est dans la presse de ce matin, alors qu'on nous présente les cas de 3 patients non vaccinés ou partiellement vaccinés qui ont reçu des poumons neufs. Alors, en résumé, ces 3 patients du CHUM ont attrapé la COVID et ça a été fulgurant dans leur cas. Les poumons ont été détruits. Et là, de ce que je comprends, on ne fait pas affaire avec des anti-vax, là. On fait affaire avec des gens qui ont probablement été négligents, n'ont pas pris la chose au sérieux, ont dit « ben, je prendrai mon rendez-vous plus tard ». Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui, de façon générale, sont en bonne santé, des gens relativement jeunes. Dans le cas qui nous intéresse, dans un des cas, c'est la fin de la quarantaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui on doit privilégier? Et, semble-t-il qu'au CHUM, il y a eu pas mal de débats. Et je cite ce matin les propos du docteur Poirier, qui est le responsable de ce programme, qui dit que il faut pas prendre ça à la légère, mais qu'on a des critères pour déterminer qui a accès à une greffe de poumon. Et pour ce qui est de la vaccination ou la non-vaccination, c'est pas un critère comme tel. Les patients ont été évalués par une équipe multidisciplinaire selon les mêmes critères que tous les autres malades. Est-ce qu'ils étaient aptes à recevoir ces poumons-là? Est-ce que mentalement, ils pouvaient passer à travers l'intervention? Donc, très malades, les 3 ont été placés sur une liste d'attente urgente de dons d'organes. T'as une liste régulière, puis t'as la liste pour qui ça presse. Puis dans le cas de ces 3 patients-là, ça pressait. Ce qui fait que pour certains, le délai, on peut parler de plusieurs mois, tandis que dans leur cas, ça a été de 6 semaines. Là, on comprend que ça a dû gueuler au CHUM. On se le cachera pas, là. Le personnel soignant qui travaille comme des damnés depuis 2 ans, le niveau d'empathie à l'endroit des non-vaccinés, c'est humain, là, est plutôt à la baisse. Sauf que c'est pas un critère dans le choix. Puis je le sais, je vous entends, vous allez dire, s'il avait été vacciné, on n'en serait pas là. Mais ces gens-là, là, c'est pas banal ce qu'ils vivent pareil, là. Tu te ramasses à l'hôpital, tes poumons sont détruits, on n'a pas d'autre choix que de te greffer des nouveaux poumons. Puis c'est pas banal, ça, greffer des poumons. Mais c'est sûr qu'en même temps, il y a des gens qui disent, ben, c'est à eux de se faire vacciner, puis moi, j'ai été vacciné, puis moi, j'attends sur la fameuse liste pour obtenir des poumons. Un mot sur l'entrée en vigueur de la mesure du passeport vaccinal dans les grandes surfaces. Bon, vous avez vu comme moi tous les reportages hier, quelques files d'attente. À d'autres endroits, ça s'est très bien passé. Quelques consommateurs frustrés, entre autres des vaccinés qui disent « on est obligé d'attendre à cause ». Toujours un peu le même discours, mais là où ça devient intéressant, c'est que dans le secteur de la quincaillerie, on avait demandé une exemption. Et on va le valider plus tard ce matin, mais ce qu'on croit comprendre, c'est que les entrepreneurs en construction vont pouvoir aller chez leurs fournisseurs, donc détaillants, dans la mesure où la quincaillerie a un accès réservé qu'aux entrepreneurs. Faut pas qu'ils se mêlent avec les autres. Alors, ça veut dire que comme entrepreneur, puis là, il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui souvent sont appelés à aller dans une quincaillerie plusieurs fois par jour, là. Alors, c'est quoi les options? C'est de commander en ligne, s'entend que c'est pas hyper pratique. Puis dans le cas des entrepreneurs, ben, faut être sûr que votre quincaillerie a ce guichet réservé. Et là, on va pouvoir fournir les matériaux, remplir la commande en question. On va le valider quand même un peu plus tard. Le directeur du SPVM sera avec nous ce matin. Il y a quand même 2 dossiers importants. D'abord, la réforme des postes de quartier, en fait, les fusions proposées. Il semble que le SPVM voulait fermer 4 postes, fusionner des postes ensemble, et que la Ville de Montréal dit non. Et l'opposition, hier, a dit, ben, on veut savoir ce qui se passe, puis faites-nous rapport. Puis là, c'est clair que politiquement, là, il n'y a pas un maire, une mairesse d'arrondissement qui veut laisser aller son poste de police, là. La question, est-ce que la façon dont les effectifs sont déployés, c'est efficace? Moi, je suis assez vieux pour avoir connu moins de postes de police avec beaucoup de policiers par poste. Là, on a implanté une réforme, il y a quoi, 25 ans de ça, en disant on va créer des petits postes puis des centres opérationnels où il y aura des cellules puis des enquêteurs, puis bon. Mais là, c'est pas rare que durant certains quarts de travail, on se retrouve avec peu de policiers. Parce que quelqu'un est en vacances, l'autre en congé parental, l'autre est en formation. Donc, moins de policiers disponibles, ce qui fait que les patrouilleurs des postes autour viennent en appui. Alors, est-ce que on perd de l'argent pour rien, là, avec la multiplication des postes comme ça? M. Caron sera avec nous. Puis le dossier de la circulation des armes à feu dans le Journal de Montréal, on nous dit grosso modo qu'il n'y a pas moins de 2000 armes à feu qui circulent à Montréal en ce début d'année. Et pour ceux qui en doutent, la filière est assez claire, là, par à quoi assassiner depuis longtemps, on le sait, là, mais ça passe du côté américain pour commencer. Et le journal cite des produits donc américains, israéliens, suédois, de la République tchèque et des anciens pays de l'Union soviétique. Donc, des pays de l'Est également qui contribuent à fournir en armes le territoire montréalais. Il paraît que ce sont les Irlandais qui contrôlent ça et que les gangs de rue sont d'un cran inférieur, là, sont plus au niveau de la distribution, mais ceux qui vraiment contrôlent les armes, c'est la filière irlandaise. Donc, dans le Journal de Montréal, vous allez pouvoir voir ça ce matin. Puis un mot aussi sur la situation en Ukraine. La diplomatie est toujours fonctionnelle, les pourparlers continuent. Mais au même moment, les forces de l'OTAN ont dépêché des avions de combat, des navires de guerre dans l'est de l'Europe. Les troupes américaines ont été placées en état d'alerte. Poutine répond que c'est de l'hystérie et qu'il n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, bien qu'il ait lui-même massé des troupes importantes à la frontière. Alors, c'est un dossier qui est en constante évolution.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On le répète, on le martèle, la vaccination est un des meilleurs outils durant cette crise, durant cette pandémie. Le Québec a un taux de vaccination de façon générale très élevé. Il faut dire que la troisième dose, la campagne a débuté avec du retard, ça Québec l'a admis. Mais maintenant, le gouvernement se donne jusqu'à la fin mars pour tenter de convaincre les 540 000 personnes qui ne sont pas nécessairement des anti-vax, mais des gens qui ne se sont pas fait vacciner, et avec des opérations ciblées dans les territoires, les arrondissements, les quartiers où le taux de vaccination n'est pas assez élevé. C'est le ministre Lionel Carman qui va superviser l'opération. Il est avec nous ce matin. Monsieur Carman, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Juste qu'on résume d'abord ce que vous allez faire. Là. Ce que vous avez annoncé, c'est l'implantation de cliniques qui vont pouvoir, comme ça, se déployer et aller vers les gens qui, pour l'instant, ne sont pas vaccinés.
Tout à fait. Puis c'est quand on m'a présenté les efforts qui avaient été faits l'été dernier, où on avait diminué le nombre de non-vaccinés de 1 200 000 à 600 000, avec ce même type de clinique, ce même type d'information, mais les cliniques étaient ponctuelles. Donc, c'était un jour ici, un jour là, les cliniques se déplaçaient. Donc, on reprend la même idée, parce que ça a bien fonctionné, mais on ajoute de l'intensité. Donc, les cliniques vont être présentes au même endroit pendant 1 à 2 semaines. On va donner plus d'informations, plus de séances d'informations pour s'assurer d'avoir le plus de gens possible à se faire vacciner. Parce que, comme vous l'avez mentionné, parmi ces 540 000, il y en a qui n'ont pas reçu l'information, qui n'ont pas compris l'information, ou qui sont plus vulnérables et que l'on pense qu'on peut aller chercher.
Je vais prendre une image, là. On peut pas juste planter une clinique pendant 2 semaines sur le coin d'une rue si on n'a pas fait du porte-à-porte pour amener les gens à se faire vacciner.
On va travailler avec les organismes communautaires, on va travailler avec les leaders des communautés, on va être sur le terrain, M. Arcan, avant de s'installer, pour que les gens soient bien au courant. Puis peut-être quelqu'un qui va passer devant la clinique une première journée en hésitant, ira chercher de l'information au troisième jour, puis viendra se faire vacciner le cinquième jour. Tandis qu'avant, c'était une fois et puis c'était fini.
Je comprends, mais à certains moments, puis j'imagine que vous le savez, là, il y a des fondations privées, 4 fondations privées qui ont financé ces projets dans des quartiers où l'info ne circule pas en raison de barrières culturelles, linguistiques. Et ça a permis de créer des brigades. Est-ce que ces programmes-là existent encore? Est-ce qu'il y a des brigades qui vont aller cogner aux portes en disant « Venez vous faire vacciner », puis avec des leaders de communauté? Est-ce que ça, c'est en place? On me dit que ça a été arrêté.
Mais écoutez, moi, on commence avec le Sud-Centre-Sud qui a déjà son équipe. Mais si dans d'autres régions, ils veulent ramener les brigades, moi, je suis ouvert à ça. Je pense qu'on veut personnaliser la campagne à quartier par quartier, région par région. Et je suis tout à fait ouvert à utiliser ça. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y avait un problème de ressources humaines, parce qu'avec tout ce qui se passe, le délestage, l'augmentation au niveau des ressources, au niveau de l'itinérance, etc. Donc, je pensais qu'il y avait beaucoup plus un problème de ressources humaines. Mais s'il faut financer des brigades qui sont prêtes à contribuer, on va aller de l'avant.
En fait, de rappeler ceux qui l'ont fait une première fois, me dit-on qu'ils sont disponibles, je pense à la Croix-Rouge, et qui ont l'expérience de pouvoir cibler, cerner les quartiers puis d'aller cogner aux portes.
Ben écoutez, nous, on est très contents du partenariat qu'on a avec l'Université de Montréal. Vincent Dumais, qui est un patient partenaire, qui travaille avec Médecins du Monde, connaît ces gens sur le terrain, connaît la Croix-Rouge. Donc, je pense que oui, ça va être beaucoup plus facile pour nous, le CIS, l'Université de Montréal et nous, de faire ces partenariats. Puis, je suis très ouvert à reprendre toute collaboration qui va nous aider.
OK. Êtes-vous capable, avec les données que vous avez là, des opérations de vaccination, d'identifier clairement quelles sont, j'allais dire, pratiquement les rues, les quartiers où le message de la vaccination n'a pas trouvé assez preneur?
Je pense que les CIS et les CIUS et les directrices de vaccination sont capables d'identifier les régions où il y a beaucoup plus de gens non vaccinés. Maintenant, moi, je ne veux pas m'avancer sur certaines régions pour ne pas stigmatiser les communautés, les populations qui sont là, mais je pense qu'on va être capable, 6 par 6, dans partout au Québec, de faire des opérations très ciblées, et on va adapter notre message à chacun de ces quartiers-là.
Docteur Carman, ce que je vais vous dire, là, et c'est pas juste là, pour soulever des points d'interrogation. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires, c'est vrai, là, ils sont à bout. Ils ont été fortement sollicités depuis le début de cette pandémie. Mais il y a en même temps une espèce d'inquiétude de voir des machines qui émanent là, du CIS pour opérer quelque chose terrain. J'ai comme une espèce de sentiment là, que vous pelletez ça dans la cour des CIS en disant « Faites les cliniques, assurez-vous que les gens y vont. » La grande question, est-ce que ça va se faire?
Absolument. Puis moi, je vais être un peu sur le terrain aussi. Je compte aller cette semaine à la clinique du CLSC Sainte-Catherine. On veut accompagner région par région. On va avoir des réunions hebdomadaires avec les directrices de cliniques de vaccination. Puis on veut qu'ils travaillent avec les organismes communautaires. Notre gouvernement travaille beaucoup en partenariat avec les organismes communautaires. Que ce soit en santé mentale, en itinérance, on a gagné beaucoup de ce partenariat-là pendant la pandémie, puis on veut continuer dans cette voie-là.
Sur un autre front, vous êtes médecin. On apprend ce matin dans la presse qu'il y a des patients non vaccinés qui ont reçu des poumons neufs, donc qui ont eu une greffe des poumons. Il paraît que ça a créé un certain remous chez des médecins au CHUM. Vous en pensez quoi, vous?
Mais écoutez, moi, en tant que médecin, puis je pense que mes collègues sont comme ça également, au Québec, là, on soigne tous nos patients. Ça, c'est la priorité, sur des priorités sur une base clinique. Maintenant, il y a des considérations bioéthiques, là, puis on en a parlé quand on a parlé des différents protocoles de priorisation. Puis là, ça prend des comités séparés si on veut introduire des variables comme le fait d'être vacciné ou pas vacciné, le fait d'être... En pénurie de lits, par exemple. Mais je pense qu'en tant que clinicien, c'est la bonne chose qui a été faite, c'est-à-dire de soigner ceux qui sont en priorité clinique.
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui écoutent ce matin, là? J'ai un auditeur qui m'a écrit qui attend pour une greffe de poumon, mais il est vacciné, puis il est sur la liste qui va moins vite. Qu'est-ce que vous lui dites pour expliquer que ces gens-là ont passé plus vite alors que lui doit attendre?
Mais je pense qu'ils sont passés plus vite parce qu'ils étaient à beaucoup plus grand risque de mourir. Mais je pense qu'il faut voir ça comme ça. On est tous ensemble, on est tous des Québécois, on est tous humains. Puis je pense qu'il faut prioriser d'abord et avant tout sur une base clinique. Maintenant, s'il y a des situations extrêmes où il faut avoir d'autres critères de priorisation. Mais là, ça prend un comité distinct parce que le médecin, lui, doit prendre la décision clinique de façon d'abord et avant tout.
J'ai une question en terminant sur la DPJ. Quel est le portrait, l'état des troupes actuellement? Est-ce que le recrutement donne des résultats? Est-ce que le bateau semble vouloir se stabiliser?
Écoutez, la situation est difficile. Je ne veux pas vous le cacher. Je pense que la pandémie, tout ce que ça fait, ça affecte nos familles, ça affecte les enfants. Les taux de signalement sont très élevés. Mais on a fait l'initiative Je contribue DPJ. On a recruté à peu près d'une cinquantaine de personnes additionnelles pour nous donner un coup de main. On est en train de rapatrier des retraités qui, je les remercie, viennent nous aider également dans la supervision, le mentorat. Et on est très motivés à améliorer les choses. Comme vous le savez, je devrais déposer, on devrait commencer les commissions parlementaires sur le projet de loi également, qui vont nous faire avancer beaucoup sur la prise en charge de nos enfants en mettant les enfants au cœur de la loi.
Mais c'est encore difficile d'attirer, de recruter, je comprends bien.
Ben, le recrutement, ce n'est pas un problème. C'est les garder avec nous, parce que c'est un travail qui est très lourd. Là, par exemple, je dois remercier ma collègue présidente du Conseil du Trésor. Là, on a vraiment une rémunération différenciée. Ceux qui font des actes réservés à la DPJ ont une prime de 7% par rapport à une travailleuse sociale en CLSC. Donc là, le travail est vraiment valorisé à ce niveau-là. On travaille à améliorer leurs conditions. Puis, si je peux passer un message, M. Arcan, on a amélioré de beaucoup les ressources en première ligne. Mais les gens ne passent pas par cette voie-là. Les gens appellent la DPJ. On va faire une rencontre. On fait des rencontres avec les écoles pour qu'ils utilisent nos services de première ligne, nos services de négligence, nos services de crise ado, famille, enfants, nos services pour les mères également et de périnatalité. Les gens, ils ont ce réflexe d'appeler la DPJ. Là, le signalement a augmenté. Le taux de rétention a baissé. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que les signalements soient plus contrôlés, soient plus souvent retenus et que le travail des DPJ soit vraiment plus pertinent.
Mais là, attendez,
avec les gens.
Oui, je suis pas certain que je comprends. Vous dites que les gens téléphonent directement à la DPJ, puis c'est pas ça qu'il faut faire?
Ben, c'est sûr que si on est inquiet, il faut appeler la DPJ. Si on est inquiet de que l'enfant soit compromis, là, sa sécurité soit compromise. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'on appelle les signalements niveau 3, là, les suspicions de négligence, les retards d'apprentissage, on est en train de mettre plusieurs programmes pour venir en aide à ces enfants-là en première ligne. Agir tôt, crise ado, famille, enfance, programme de négligence, services intégrés en périnatalité, petite enfance, tous des programmes qui n'existaient pas ou n'avaient pas été bonifiés depuis les débuts des années 2000, on les a rehaussés. Il faut les utiliser plus.
Donc, par exemple, les écoles, les CPE, que les adultes qui sont au quotidien avec les enfants fassent plus de signalements, si c'est le cas.
Oui, mais utilisent plus les services de première ligne.
OK.
Parce que c'est sûr que si on voit un soupçon d'abus physique, d'abus sexuel, on appelle la DPJ. Ça, il n'y a pas de question. Mais toutes les autres formes de négligence moins sévères, qui souvent composent notre liste d'attente, pourraient être prises en charge en première ligne. Puis quand l'intervenant de première ligne a difficulté à avoir l'accès aux parents, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir ce qu'on appelle la co-intervention. Donc l'intervenant de première ligne qui vient accompagner de quelqu'un de la DPJ pour lui aider à ouvrir la porte et avoir accès aux parents. Donc on change le modèle, on travaille très fort avec l'éducation, avec les CPE, les garderies, pour que tout le monde soit interpellé également. Que ce soit vraiment un travail plus interdisciplinaire que, justement, que la DPJ soit la salle d'urgence des services sociaux. Il faut changer cette mentalité-là.
Merci, Dr. Carman. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Lionel Carman est le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Donc, on parlait de cette nouvelle qui fait beaucoup jaser, d'apprendre que 3 patients non vaccinés ont eu droit à des nouveaux poumons, des gens qui, d'après ce qu'on voit dans le témoignage, sont pas des anti-vax, mais des gens peut-être qui auraient négligé, qui n'étaient pas convaincus du vaccin, de la pertinence. Bref, ils ont été foudroyés. Et selon les critères du protocole, ils ont devancé des gens sur des listes pour obtenir cette greffe de poumon. Et je vous le disais, au CHUM, paraît-il que ça a brassé un peu. Je vais en parler ce matin avec Dr Pierre Marcellet, qui est interniste, intensiviste et coordonnateur du Centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur. Dr Marcellet, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Vous faites pas de greffe, mais vous prélevez les organes. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs, en gros, c'est quoi le protocole? Comment on décide qu'une personne se retrouve priorisée par rapport à une autre?
Bon, en fait, permettez-moi de préciser, moi, je suis du côté du don. Alors, on ne fait pas de prélèvement. Je travaille du côté triste de la chose, c'est-à-dire une personne, une victime d'une lésion cérébrale ou quelle que soit la cause, raison de sa mort, de son décès, la famille souhaite de donner. Donc, on est d'un côté de la clôture. C'est très important de rester de ce côté-là de la clôture pour demeurer, objectif face à cette personne-là. Les listes sont gérées, sont décidées, les critères par ceux qui travaillent de l'autre côté de cette clôture-là, c'est-à-dire des gens qui sont du côté de la transplantation. La façon dont ils fonctionnent, moi, je ne fais pas partie de ces comités-là, nécessairement. En fait, je dirais par nécessité, je ne devrais pas faire partie de ces comités-là. Ils voient d'abord l'urgence, c'est-à-dire combien critique est la situation. Et le but de ces comités-là, c'est de souhaiter sauver le plus de gens possible, en espérant que personne ne meure sur une liste d'attente et en essayant d'attribuer les poumons à la personne la plus appropriée possible. Exemple, avant, on refusait des donneurs de poumons qui avaient fumé. Autrement dit, si mon donneur, la personne que je soigne, souhaite donner les organes, mais que c'était un fumeur, les transplantants disaient non, un fumeur, on prend pas ça. Ou on prend, s'il a fumé moins que tant de paquets de cigarettes par jour ou pendant tant d'années. On a appris par la suite que ces critères de ne pas prendre les poumons d'une personne qui a fumé, premièrement, étaient non pas bien fondés, ce qui fait que c'était quand même des bons poumons. Exemple, Guy Lafleur était un champion puis il était fumeur. Donc, n'importe qui aurait bien souhaité avoir les poumons de Guy Lafleur, c'était pour en faire un champion aussi en forme. Autrement, il y avait ça comme critère. On s'est aperçu qu'il y a des personnes qui vont mourir sur des listes d'attente parce qu'on aura choisi de ne pas prendre des poumons d'une personne qui avait fumé. Donc, il y a l'urgence, il y a du receveur, puis d'un côté, puis aussi on va décider de quel type de donneur et quels sont les organes qui ont le plus de chances possible à transplanter des gens. Les critères se veulent le plus, inclusif possible. Exemple, il fut un temps où une personne qui avait pris de l'alcool et qui avait une cirrhose du foie et aura besoin d'un foie, le fait d'avoir pris de l'alcool l'excluait. On s'est aperçu que non, moralement, éthiquement, une personne peut avoir pris de l'alcool, mais c'est pas de la malveillance que d'avoir eu une mauvaise habitude, c'est pas de la malveillance, c'est de la malfaisance que d'avoir été fumeur. Donc, on n'exclut pas une personne parce qu'elle était fumeur pour les poumons ou parce qu'il était alcoolique pour le foie. Bien entendu, on fait beaucoup de sensibilisation pour que les gens arrêtent de boire. Et d'ailleurs, les personnes qui attendent un foie, c'est des gens qui ont arrêté de boire. Les gens qui attendent des poumons, c'est des gens qui ont arrêté de fumer. Et puis là, les listes sont réfléchies, ou la façon de gérer ou d'établir les critères sont réfléchis de ces façons-là.
Autrement dit, on base pas les critères sur les choix de vie des gens, comme vous dites, qui fument, qui ont pris trop d'alcool ou encore des gens qui sont pas vaccinés. Ça fait pas partie des critères, là.
Non. C'est sûr que les médecins vont faire la sensibilisation, vont imposer de cesser cette mauvaise habitude-là, bien entendu. Normalement, les gens ont arrêté de fumer, ont arrêté de boire, et les médecins s'en assurent et vont certainement re-questionner la pertinence de transplanter si la mauvaise habitude persiste. Mais comme je vous dis, tous ces critères-là, c'est extrêmement complexe. Ça demande des réflexions au-delà de la première perception, c'est-à-dire bon, mais ils méritent pas ça. Les organes ne vont pas par un mérite. On n'est pas malade parce qu'on mérite d'être malade. Les organes ne vont pas à une personne qui le mérite ou qui le mérite pas. En fait, on va aller à la personne qui pour nous permettre de la sauver et en espérant que cette personne-là, bien entendu, aussi puisse aider à la cause. Je vous donne l'exemple de les gens qui ont eu la COVID, qui n'étaient pas vaccinés, c'était pas par malveillance ou par malfaisance, c'est des omissions, c'est de la négligence. Ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'on parle de l'été juillet l'année dernière, donc les vagues subséquentes, la dernière vague n'était pas arrivée encore, la tempête était passée, cette négligence, finalement, je n'ai pas eu besoin de me faire vacciner, puis c'est fini, ou cette perception que c'était terminé, cette crise-là, on comprend aujourd'hui que la crise n'était pas terminée, donc c'est très complexe, puis condamner une personne à ne pas être greffée parce qu'elle a été négligente ou parce qu'elle a omis d'être greffée, c'est un lourd fardeau, là. Les médecins souffrent de cette prise de décision-là aussi.
Non, on comprend que c'est... D'abord, une greffe, c'est pas banal, là, et on comprend que les facteurs, t'essaies de, j'imagine, greffer la personne qui en a le plus besoin à un moment précis, la personne pour qui... disons, le taux de réussite de la grève va être le plus élevé. Ça fait partie, j'imagine, des éléments. Il n'y a pas que ça, mais ça doit jouer.
Oui. Et puis, vous savez, les gens qui gèrent les listes, qui vont décider, les poumons, on a une offre de poumons. Puis, je mets en contexte. Une offre d'un poumon d'une personne de 63 ans en pleine forme. Donc, c'est pas une personne de 20 ans. C'est quand même une personne de 63 ans, mais il est en pleine forme. Ces poumons-là vont sauver quelqu'un. Maintenant, cette personne-là, ce donneur-là, a une corpulence. C'est sûr que c'est une petite personne, ça ne conviendra pas à un receveur qui est très, très corpulent. Et actuellement, donc, une personne de 63 ans, j'ai une personne en attente qui est sur une liste urgente, qui est compatible. Et je vous dirais même que, je ne dis pas tout le temps, mais je dirais souvent, le receveur était le seul ou un rare receveur potentiel ou possible pour ces poumons-là. C'est sûr que quand on est donneur plus standard, bien là, il y a un choix à décider. Puis là, pour rester objectif, il y a un ordre de priorité en fonction de l'urgence de la personne sur la liste. Mais il arrive que, oui, la personne est urgente, mais il y a une question de compatibilité même anatomique, c'est-à-dire que ces poumons-là ne peuvent être attribués à personne d'autre qu'à cette personne-là. Et là, dans ces cas-là, on n'a pas privé personne.
Merci beaucoup, Dr. Marcellet. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Au revoir, Dr. Pierre Marcellet, interniste, intensiviste et coordonnateur du Centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Sylvain Caron, le directeur du SPVM, propose de fusionner certains postes de police, donc d'en réduire le nombre, afin de mieux déployer des policiers sur le territoire. Les politiciens et politiciennes ont dit « faut pas que ça se fasse ». La mairesse Valérie Plante a dit « il n'y en est pas question ». Et aussi, tout ça arrive alors qu'on est encore avec une série d'événements violents. Je pense en fin de semaine à Montréal-Nord, des coups de feu, des gens blessés par balles. Et ce matin, le Journal de Montréal, entre autres, qui parle d'à peu près 2000 armes qui se promènent sur le territoire, espèce de filière de la Pennsylvanie d'Aquassassiné. Et puis, ça arrive à Montréal par les Irlandais qui distribuent, disent-ils, à des gangs de rue. M. Caron est avec nous ce matin. Bonjour, M. Caron.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais commencer par les armes d'abord, si vous voulez. Quand vous lisez ce matin qu'il y a au moins 2000 armes en circulation, que ça passe par ce corridor que je viens de décrire, est-ce que c'est conforme à ce que vous savez?
Ben, écoutez, c'est peut-être pas exactement la même information que je possède. C'est sûr qu'en termes de quantité, c'est assez préoccupant, mais quand vous voyez qu'on saisit 675 armes, exemple illégales, l'année passée, en 2021, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait beaucoup d'armes actuellement en circulation. On le constate depuis plus de deux ans. Alors, est-ce que la filière est intégrale, comme qui est décrit dans le journal? Ça arrive souvent par livraison, par morceaux, de façon différente. Alors, il y a plusieurs façons d'approvisionnement peut se produire selon les informations qu'on a. Alors oui, ça peut être une filière, mais ce n'est pas la seule, je crois, qui existe actuellement.
OK. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un groupe du crime organisé qui a la mainmise sur les armes illégales plus qu'un autre groupe?
L'information ne nous permet pas de dire qu'il y a un seul groupe. C'est des crimes d'opportunité, c'est du trafic d'armes d'opportunité. Alors, plusieurs souches peuvent être impliquées dans le trafic d'armes pour permettre à nos gens de la rue d'avoir des armes.
L'autre question que j'ai envie de vous poser, avec toutes les armes qui ont été saisies, si on avait à faire une espèce de portrait, c'est des armes de poing, c'est des armes automatiques, c'est des armes illégales, qu'est-ce que vous saisissez?
Dans la majorité des cas, c'est des pistolets, des armes de poing qui sont saisies de façon exceptionnelle, des armes semi-automatiques et automatiques.
Quand vous examinez les différents cas, il y a eu principalement des jeunes là, qui ont été blessés par balles, qu'est-ce qui vous frappe? Y a-t-il des points communs, des gens connus, pas connus, un contexte d'une prise de bec, d'une banalité que, bref, on tire pour rien?
Bien, actuellement, il y a de plusieurs situations qui sont différentes d'une situation à l'autre, évidemment. Il y a des gens criminalisés qui s'en prennent entre eux. Ça, c'est un groupe de gens actuellement qui sévit sur le territoire. Tu as les jeunes qu'on voit qui utilisent des armes. Alors, la banalisation des armes, on le voit même à 14, 15, 16 ans. Alors, les phénomènes sont différents des situations qui se produisent malheureusement sur le territoire. La banalisation est assez présente. Alors, on décide de régler des comptes avec des armes à feu aujourd'hui, alors qu'avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on utilisait des poings, les mains.
Oui. Mais est-ce que vous avez, puis là, je ne veux pas de secret d'enquête, là, mais du nouveau sur les différents meurtres qui ont été commis, tous ces jeunes qui ont été assassinés, avez-vous trouvé qui se cache derrière ça, hein, si vous aviez à faire une espèce de bilan des enquêtes?
Mais les enquêtes sont très actives actuellement. Toutes les enquêtes sont actives. Il y a beaucoup d'éléments à vérifier, à regarder. Puis l'exemple qu'on a, c'est la semaine passée, on a arrêté un gars à Sudbury, en Ontario, pour un événement de mai 2021. Ça prend du temps, ça prend des expertises, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à nos enquêteurs pour être capables d'arriver à solutionner nos crimes. Alors, faut laisser le temps à nos enquêteurs travailler. Mais actuellement, je suis confiant, dans les prochains mois, on aura des résultats dans plusieurs dossiers.
OK. Parlons maintenant de la fusion des postes de quartier, de certains postes de quartier. Vous avez fait une proposition sur la place publique. Là, vous voulez réduire de quoi? 4 le nombre de postes?
Ah, pas tout à fait. Exactement, ce qu'on veut faire, c'est une réflexion. On est rendu 25 ans, 26 ans plus tard. Il est normal et logique puis responsable de se questionner en tant que responsable de la sécurité publique. Est-ce encore la bonne façon de desservir les citoyens? On nous demande d'être plus près du citoyen, puis en même temps, il faut s'adapter à la nouvelle forme de criminalité. Depuis 25 ans, ça a changé. Alors, on se questionne, on va plus loin que juste les postes de quartier. On veut repenser notre offre de service globale. Puis pour ce faire, on commence des consultations. On a fait une consultation à l'interne sur les dysfonctionnements, comment se repositionner par rapport à l'île de Montréal. Là, maintenant, on s'en va rencontrer les maires des Villiers, on s'en va rencontrer les maires d'arrondissement, les partenaires. Alors, on veut faire une consultation. On ne veut pas seulement que le service de police décide. On veut que le projet soit un projet de tous les Montréalais, Montréalaises, pour qu'on repositionne l'organisation policière pour les 20 prochaines années.
Je vous cite, là, puis vous me direz si c'est ce que vous avez dit, là, que dans certains cas, les postes de quartier, ce sont pratiquement que des vestiaires pour les policiers.
Oui, malheureusement. On n'a pas beaucoup de capacité. On est partout sur le territoire, mais on n'a pas beaucoup de capacité à bien des endroits. Je suis allé sur le territoire encore en décembre. Puis, je rentre dans un poste de quartier une journée où j'ai 3-4 policiers qui travaillent alors que le territoire devrait demander une présence plus accrue. Alors, il y a une capacité qu'on veut retrouver, mais en même temps, j'entends qu'on s'est éloigné des citoyens avec les années, au cours des dernières années. Alors, il faut trouver une formule, une nouvelle façon de repenser. D'ailleurs, on fait un test actuellement avec un nouveau projet, l'équipe de concertation communautaire de rapprochement, qu'on a débuté en avril et en octobre. Avril dans le centre-ville, dans la zone du centre-ville, puis dans le nord-est, avec la zone du nord-est, avec une nouvelle approche avec nos policiers, policières à pied sur le territoire, à ne pas répondre à des appels, mais à s'occuper des problématiques locales. Alors, on essaie de repositionner l'organisation pour être meilleure puis être plus efficace pour respecter la capacité de payer des citoyens, parce que les coûts de sécurité publique depuis 20 ans ont explosé.
Je suis assez vieux pour avoir connu les grands postes de police où il y avait plusieurs policiers qui se déployaient sur un territoire. Est-ce que je me trompe si durant certains quarts de travail actuellement, avec la formule de ces postes de quartier, il n'est pas rare de voir un policier, une policière absente, congé parental, formation, et qu'on se retrouve avec un minimum de policiers. C'est pour ça qu'on doit faire appel à des patrouilleurs de d'autres secteurs.
Tout à fait. C'est la réalité qu'on vit actuellement depuis plusieurs années au service, compte tenu des changements qu'il y a eu. Alors, ce qu'on veut, c'est se redonner de la capacité, mais en même temps, se rapprocher du citoyen d'une autre façon.
Donc, fusionner des postes pour avoir plus de policiers faisant partie du même territoire, qui est plus grand, mais d'un territoire unique, là.
Ça pourrait être des fusions, ça pourrait être des redistributions. Alors, la formule idéale n'est pas encore trouvée, évidemment. On se donne le temps de faire des consultations, mais le statu quo n'est pas possible. Alors, on va aller voir ce qui se passe en Amérique du Nord, dans les autres corps de police, en Europe. On va s'inspirer des meilleures pratiques, puis on va proposer quelque chose à la fin de l'année, cette année, à l'automne prochain, aux élus pour leur permettre de voir quels seraient les services de police des années qu'on a actuellement pour desservir la population montréalaise.
Vous savez, là, c'est pas à vous, je vais apprendre ça, là, que les politiciens sont frileux. Un maire ou une mairesse qui pourrait perdre un poste de quartier, là, c'est rarement gagnant pour eux autres. Là.
Ce qui est plus important d'avoir un poste, c'est d'avoir une présence policière continue à tous les jours. C'est là qu'il faut comprendre, évidemment. C'est un changement important, M. Arcand. Mais un changement, c'est quoi? C'est informer les gens, les accompagner. Alors, je pense qu'on a un grand rôle de communication à faire. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on va tenir les citoyens puis les élus informés de notre avancement du projet.
Bon, il y a eu cette fusion, là, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Est-ce que c'est vrai que le temps de réponse aux appels urgents a augmenté?
Les réponses aux appels, nous, ce qu'on appelle 1 et 2, qui les appels urgents, c'est amélioré. Alors, on est un petit peu au-dessus de la moyenne sur le territoire montréalais au complet. Ce qui a perdu un peu, évidemment, puis on travaille cet aspect-là, c'est les appels moins urgents, appels avec rendez-vous. Alors, notre temps a augmenté d'environ une minute de déplacement. Alors, ce qu'on travaille à améliorer, évidemment, c'est un changement autant pour nos policiers que pour les citoyens. Alors, on travaille à améliorer notre temps de réponse sur les priorités non urgentes, sur les appels non urgents qui surviennent dans ce territoire-là.
Question, comme on dit, dans l'air du temps. Vous aviez combien de policiers là, qui ne travaillent pas actuellement parce qu'ils ont la COVID, soit qu'ils sont en confinement, donc touchés par un effet de la pandémie?
Ben, la pandémie, seulement que la pandémie, je dirais présentement, selon les rapports que j'ai eus hier, c'est environ 240 policiers.
C'est quand même pas mal de monde.
Ben, c'est beaucoup. C'était un peu plus corsé que ça, je vous dirais, dans le temps des fêtes. Alors là, on sent une petite accalmie, évidemment. On retrouve une certaine normalité. On souhaite que tous reviennent, évidemment, en santé. Alors, on suit ça de façon quotidienne pour s'assurer de bien servir la population sur l'île de Montréal.
M. Caron, merci. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Sylvain Caron est le directeur du service de police de la ville de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, on sait que pour les restaurateurs, l'annonce fin décembre, ça a été comme un coup de poing à la veille d'une journée payante, le 31 décembre. Depuis ce temps, comme d'autres propriétaires d'établissements, les gyms et autres comme ça, on attend. Donc, point de presse, 14h aujourd'hui, tout indique qu'on va permettre aux restaurateurs de rouvrir les salles à manger avec une capacité réduite dans un premier temps 50%, le passeport vaccinal, 2 bulles. Mais c'est une industrie qui s'est fait brasser pas mal depuis le début de cette pandémie avec on ferme, on rouvre partiellement. Et déjà, on connaissait des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Je fais le point avec Pablo Royas, qui est chef cuisinier et copropriétaire des restaurants Provision et Le Petit Italien. Monsieur Royas, bonjour.
Monsieur Arcand, comment ça va?
Ben moi, oui, ça va bien. Vous?
Ben ça va. On navigue dans tout ça du mieux qu'on peut, comme qu'on dit.
Vous avez écrit sur les réseaux sociaux, puis vous avez abordé plusieurs points que je trouve importants, puis qu'il faut partager avec les auditeurs. Vous insistez beaucoup sur l'état de la restauration. Puis quand je dis l'état, là, ce sont la difficulté de trouver des gens, de les garder, de les mettre à pied quand on est obligé de fermer, puis de découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés au point qu'il faut peut-être les aider sur le plan psychologique. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Mais c'est certain, là, après, il y a quand même pas mal de temps qui a passé, mais les premiers mois étaient un peu plus faciles que d'autres, mais là, c'est certain que moi, mes collègues, je pense que c'est surtout sur les employés que c'est plus difficile. Oui, nous autres, on a la pression économique, financière de notre entreprise, mais il y a aussi beaucoup de cuisiniers, de serveurs, de maîtres d'hôtel qui, c'est quand même leur métier, c'est quand même leur passion. Puis là, moi, ce que je trouve dans tout ça qui est un peu triste, c'est qu'on est en train... Qu'est-ce que le gouvernement envoie comme message? C'est qu'on est une partie de la population qui est peut-être un peu moins importante, qui se fait sacrifier à toutes les fois d'ouverture, fermeture. Et puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, on veut pas, tu perds un peu courage dans tout ça. Puis surtout qu'on voit pas la fin. Puis là, oui, avec la réouverture... la réouverture des restaurants imminente, tant mieux. Mais sauf que là, est-ce que ça va être bien fait? Est-ce qu'on a vraiment une stratégie? Parce que si on nous referme encore dans un mois, parce que la vérité, c'est que le système de santé n'est pas capable de suivre, c'est nous qui écopent depuis le début. Ben, nous, les gyms, les bars, qui écopent depuis le début. Donc, la réalité, c'est est-ce que les choses vont être faites parce qu'on est en train de japper puis on va juste nous lancer un os, ou les choses vont être faites avec un plan qui a été réfléchi puis qu'on a vraiment... on va vraiment pouvoir retourner à nos opérations habituelles dans le but de se remettre du pied de cette espèce de crise qui nous a arraché beaucoup de nos confrères puis beaucoup d'énergie aussi.
Vous avez dû mettre à pied, là, avec cette nouvelle fermeture, combien de personnes?
Mais avec tous les restaurants, là, j'ai fermé deux établissements sur quatre. Donc, ça fait quand même une bonne trentaine de personnes. Là. Après ça, le chiffre exact, mais sauf que oui, au moins une trentaine de personnes entre le boss boy, le plongeur, ma sommelière, mes cuisiniers. Ça commence à faire beaucoup de monde aussi. Puis aussi, les gens qui ont travaillé, je veux pas sur deux ans, j'ai du monde qui ont travaillé à peu près six mois dans deux ans, le reste est sur le chômage. Puis, tu sais, on a l'impression qu'on dit tout le temps, oui, mais vous avez le chômage. Je dis, oui, mais tu sais, le chômage, ben, je sais pas si vous le savez, là, mais tu sais, ils payent pas le salaire au complet. C'est pas des gens qui sont rémunérés à des salaires faramineux. C'est quand même, si tu perds 200-300$ par semaine, pendant deux ans, n'importe qui sera un peu découragé. Là. Je veux dire, le coût de la vie sans cesse en train de remonter. Tout coûte cher, les loyers coûtent cher. Puis on est comme, ben c'est ça. Fait que les gens, c'est certain qu'ils sont pris à la gorge. Puis la pression monte comme dans n'importe quoi d'autre, comme dans n'importe quelle autre entreprise de mon côté.
Mais j'allais dire, ça doit être dur pour la santé mentale. Physique, bien sûr, là, mais la santé mentale de beaucoup d'employés, cette espèce de va-et-vient, on rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Puis en plus, tu te retrouves parfois en confinement seul. Ça doit affecter le moral d'aplomb, là.
Mais c'est, je pense que c'est le pire dans tout ça. Puis aussi, je pense qu'on ne s'en rend pas compte immédiatement. Tu sais, c'est après tout ce temps-là qu'on voit vraiment les effets. Puis comme vous dites, tu sais, on ne peut pas se rassembler. T'sais, habituellement, quand les choses vont mal, on se rassemble. On a l'appui de nos amis, on a l'appui de nos familles. Mais là, c'est chacun de son bord. And we wish for the best. C'est ça aussi que le gouvernement, j'ai l'impression, il va-tu, s'il y a vraiment un plan, il va-tu avoir un plan une fois que la poussière va être retombée par rapport justement aux dépressions qu'il va avoir, aux gens qui vont être obligés de changer de carrière parce que c'est ça qu'ils vont, ils vont perdre un peu la confiance dans la business qu'ils ont travaillé depuis X nombre d'années. Il va y avoir un soutien qui va devoir venir psychologique du gouvernement parce que là, ils nous bardassent d'un côté à l'autre, on n'est pas les seuls. Mais, tu sais, on dit on est tous dans le même bateau. Oui, puis non. Je veux dire, nous, on est dans une chaloupe qui a de l'hiver en maudit de ce temps-ci. Là. Il y a des trous, puis on en jette de l'eau par-dessus bord pour essayer de garder le cap.
Je vous cite. Voir des gens que je côtoie depuis des années tenter de s'enlever la vie parce qu'ils ne voient plus le bout, c'est ça, notre réalité.
Oui, bien, ça, c'est quelque chose que, dans les dernières années, que ça soit des vignerons qui se sont enlevés la vie en France, ça affecte beaucoup de gens, toute cette espèce de... Tu sais, c'est un métier de passion qu'on fait, puis la passion, évidemment, elle vient avec des pour et des contre. On est là à 100% à s'investir, c'est des gens qui sont passionnés. Tu sais, puis aussi, c'est beaucoup de monde qui, peut-être, qui ne fit pas dans la société, qui ont trouvé quelque chose qu'ils aimaient, qui ont trouvé quelque chose... qui était passionné, qui était apprécié aussi. Tu sais, c'est important de comprendre ce côté-là de la restauration. C'est un métier de passion. Puis là, il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, puis ils ont perdu le moral aussi qui vient avec ça. Puis après ça, chaque personne essaie de s'en sortir comme qu'il peut. Moi, j'essaie de faire mon du mieux que je peux, mais aussi, tu sais, je suis pas équipé nécessairement là, pour gérer des crises comme ça. Puis donc c'est là qu'on est rendu après. Après 22, 23 mois, là, même plus les mois, après un méchant long bout de temps.
Bon courage à vous et à vos collègues de travail également, puis espérons que si ça roule, là, ce sera pour de bon. Merci, M. Roas.
Ben, j'espère aussi. Merci à vous.
Merci, au revoir. Pablo Roas est chef cuisinier, copropriétaire des restaurants Provision et Le Petit Italien.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.